RFI, 6h à Paris, 5h en temps universel.
Julien Coquel-Roem.
Bonjour à toutes et à tous, c'est RFI Matin qui commence avec le journal. Bonjour Gaëtan Planel.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
5 ans de prison ferme pour Boualem Sansal.
La peine prononcée hier par le tribunal correctionnel de Dar El Beida en Algérie. Pour autant, le scénario d'une grâce de l'écrivain franco-algérien semble se dessiner alors que les présidents français et algériens ont ouvert la porte à une reprise des discussions. On en parle dès le début de ce journal. On est aussi en Turquie où l'opposition continue de se mobiliser après l'arrestation et l'incarcération du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu. Et les médias d'opposition sont dans le collimateur des autorités. Dans ce journal également, le président américain Donald Trump qui renonce à nommer Elise Stefanik en tant qu'ambassadrice de l'ONU. Il dit ne pas vouloir prendre de risques alors que la majorité républicaine est faible à la Chambre des représentants. On vous expliquera tout. On reviendra aussi sur cette décision du président argentin Javier Milei. Il ordonne la déclassification de tous les documents sur les nazis qui ont trouvé refuge dans le pays après la Seconde Guerre mondiale. C'était une demande du Sénat américain. Et puis on fera le bilan de la visite en Israël du président du Rassemblement National, Jordan Bardella, l'occasion pour lui de marteler que le parti français d'extrême droite a tourné la page de l'antisémitisme.
Il passe une nouvelle nuit en prison et c'est ce qu'il attend théoriquement pour les 5 prochaines années.
Oui, 5 ans de prison, peine prononcée hier par un tribunal algérien à l'encontre de Boualem Sansal, accusé notamment d'atteinte à l'intégrité du territoire, à la sûreté de l'État et à la stabilité des institutions. L'écrivain franco-algérien âgé de 80 ans est atteint d'un cancer. Il avait été arrêté le 16 novembre dernier à Alger, aggravant davantage encore les tensions bilatérales entre la France et l'Algérie. Emmanuel Macron a réagi hier, disant souhaiter vivement que Boualem Sansal puisse redevenir un homme libre. Et à ce sujet, le président français dit savoir pouvoir compter à la fois sur le bon sens et l'humanité des autorités algériennes. Alors une grâce est-elle envisageable, Pierre Firsion ?
Après des mois de tension, l'heure semble être à l'apaisement entre Paris et Alger. Par médias interposés, les présidents Macron et Tebboune ont ouvert la voie au dialogue la semaine dernière, dialogue qui est visiblement sur le point de reprendre. Anne-Claire Legendre, la conseillère Afrique du Nord et Moyen-Orient du président Macron, s'est, selon nos informations, rendue mardi à Alger. Un déplacement discret pour, selon certains médias, préparer une visite de Jean-Noël Barrot début avril en Algérie. Le ministre français des Affaires étrangères ne s'interdit aucun moyen d'action sur ce sujet, comme sur les autres, y compris de se rendre en Algérie, commente-t-on de sources diplomatiques. Or, selon un bon connaisseur du dossier, impossible pour le chef de la diplomatie française de se rendre sur place si Boualem Sansal est toujours en prison. Le scénario d'une grâce présidentielle serait donc sur la table, une grâce qui pourrait intervenir, selon le spécialiste Hasni Abidi, avant le 5 juillet et la fête nationale, en raison de l'état de santé de l'écrivain et de son âge avancé.
La précision de Pierre Firsion. En attendant, c'est un innocent qui est en prison, a réagi hier soir sur France 2 l'écrivain Eric Fotorino, membre du comité de soutien à Boualem Sansal, alors qu'une partie du monde de la culture se mobilise en France depuis son arrestation.
C'est aussi en France, à Paris, qu'était prévu le 7 avril prochain le concert Solidarité Congo en soutien aux victimes de la guerre dans l'est de la RDC.
Il est reporté ce concert, comme réclamé par le préfet de police de la capitale. En cause la date, car le 7 avril, eh bien, c'est le début des commémorations du génocide des Tutsis au Rwanda. Alors les associations rwandaises demandaient elles aussi depuis plusieurs semaines le report de ce concert au profit des enfants victimes de ce conflit. Un conflit dans lequel les troupes rwandaises soutiennent le M23 face aux soldats congolais, épaulés eux par les groupes Wazalendo. Ce conflit dans l'est de la RDC était hier à l'ordre du jour d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. On y revient dans nos prochaines éditions africaines.
Près de 2000 arrestations en Turquie selon les autorités.
Un bilan de 9 jours de mobilisation après l'arrestation puis l'incarcération d'Ekrem İmamoğlu, le maire d'Istanbul et principal opposant du président Recep Tayyip Erdogan. Le parti républicain du peuple, le CHP et sa formation se préparent un grand rassemblement demain sur une place d'Istanbul. Et couvrir ces manifestations devient de plus en plus compliqué pour les médias d'opposition. Hier, une chaîne de télévision a notamment été condamnée à 10 jours d'interruption de ses programmes. Correspondance à Ankara, Dan Anglower.
Incitation du public à la haine et à l'hostilité. C'est ce dont le Conseil supérieur de l'audiovisuel turc, le RETÜK, dominé par l'Alliance au pouvoir, accuse Halk TV, Telebir, Now TV et Sözcü TV, quatre chaînes proches de l'opposition. Les deux premières vont devoir suspendre plusieurs jours certains de leurs programmes, mais la dernière, Sos du TV, en raison de sanctions antérieures, ne pourra rien émettre pendant 10 jours. Une sanction exceptionnellement lourde. En cause, des propos tenus par des invités de la chaîne depuis le début des protestations. Nejdet İpekçüz, un membre du JETÜK désigné par l'opposition.
C'est pour des propos tels que « vous détruisez l'espoir que les gens mettent dans les élections » ou « la police fait usage de beaucoup de violence » que les chaînes ont été sanctionnées. Le fait que les sanctions ne visent que certaines chaînes, qu'elles interviennent au moment où notre pays a le plus besoin du pluralisme des opinions, tout cela abîme encore plus le sentiment de justice. Ce dont nous aurions besoin urgemment, c'est au contraire d'élargir l'espace de la liberté de pensée et d'expression.
Dans un communiqué, le JETÜK menace toutefois de révoquer purement et simplement la licence de la chaîne, je cite, si les violations se reproduisent. Anand Loher, Ankara, RFI.
Et les États-Unis, par la voix du secrétaire d'État Marco Rubio, font part de leurs inquiétudes face à l'instabilité en Turquie. Marco Rubio, pour qui il est prématuré d'envisager des pourparlers à haut niveau avec la Russie pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Pour lui, il faut d'abord que davantage de progrès soient effectués au niveau technique. Le calendrier ne dépend pas de nous, a-t-il ajouté. Et hier, une trentaine de dirigeants mondiaux, majoritairement européens, étaient réunis à Paris. Ceux qui se font appeler la coalition des volontaires ont affirmé d'une même voix qu'il ne comptait pas lever les sanctions contre la Russie, contrairement à ce qu'envisage Washington. Pas d'unanimité, par contre, en ce qui concerne le déploiement d'un contingent en Ukraine en tant que garantie de sécurité en cas d'accord de paix avec Moscou, une idée portée par la France et le Royaume-Uni. On y revient dans le journal de 6h, temps universel, avec notre spécialiste défense, Franck Alexandre. Et puis, à propos de la guerre en Ukraine, le président russe, Vladimir Poutine, évoque à l'instant l'idée d'une administration transitoire sous l'égide des Nations Unies.
En attendant, il est 1h07 à Washington, où Donald Trump fait marche arrière.
Le président américain annonce sur les réseaux sociaux qu'il renonce à nommer Elise Stefanik en tant qu'ambassadrice des États-Unis à l'ONU. Elle était pourtant censée être confirmée à ce poste par le Sénat américain dans quelques jours. Oui, mais voilà, ça aurait impliqué son départ du Congrès. Or, les Républicains ne peuvent pas vraiment se le permettre pour des raisons mathématiques. Explication depuis New York de Karine Auton.
Elise Stefanik se voyait déjà à la table du Conseil de sécurité. Elle, qui avait été la femme la plus jeune, élue à la Chambre des représentants à 30 ans en 2014, elle qui avait déjà inscrit sur sa bio Instagram « ambassadeur à l'ONU désigné ». Lors de son audition devant le Sénat, elle avait affiché une position ultra pro-israélienne et la détermination caractéristique de la jeune garde trumpiste. Mais le président américain a décidé hier que d'autres pouvaient faire un bon boulot à l'ONU. Il a surtout besoin d'elle pour faire passer ses nouvelles lois en s'assurant une majorité à la Chambre des représentants où elle occupe le siège d'une circonscription du nord de l'État de New York. Pour l'instant, les Républicains occupent 218 sièges, les démocrates 213, et des élections sont prévues dans les semaines à venir pour pouvoir distribuer 4 sièges devenus vacants. Devoir réorganiser une élection pour remplacer Elise Stefanik, remettre en jeu un 5e siège, ce n'est pas si risqué en soi, mais la gouverneure démocrate de New York a interdit que de nouvelles élections se tiennent sous 3 mois, un pari jugé trop risqué pour Donald Trump. Karine Auton, New York, RFI.
En Argentine, le président Javier Milei ordonne la déclassification d'archives jusqu'ici gardées secrètes.
Oui, des documents sur les nazis qui avaient trouvé refuge dans ce pays après la Seconde Guerre mondiale. Une décision prise sur demande du Sénat américain. Théo Conscience.
Dans une lettre remise par les autorités du centre Simon Wiesenthal à Javier Milei, le président de la commission judiciaire du Sénat américain demande au président argentin sa collaboration dans une enquête sur des actifs bancaires détenus par d'anciens nazis. Les législateurs américains s'intéressent notamment à une centaine de comptes du Crédit Suisse liés à des nazis établis en Argentine après la guerre. Selon l'agence Noticias Argentinas, le gouvernement argentin apportera notamment des documents financiers ainsi que des archives du ministère de la Défense. Difficile cependant de savoir si cette déclassification permettra de nouvelles révélations. En 1992, le président argentin Carlos Menem avait déjà déclassifié les archives relatives aux activités nazies en Argentine. 7 ans plus tard, une commission d'investigation avait conclu qu'au moins 180 criminels de guerre nazis avaient trouvé refuge dans le pays. Parmi eux, on peut notamment citer Adolf Eichmann, l'un des architectes de la solution finale enlevée à Buenos Aires par les services secrets israéliens en 1960, ou encore Joseph Mengele, médecin du camp d'extermination d'Auschwitz, surnommé l'ange de la mort. Théo Conscience, Buenos Aires, RFI.
À Londres, la commission d'enquête Cranston a pris fin hier.
Ah, c'est cette commission qui a été chargée de faire la lumière sur le naufrage le plus meurtrier dans la Manche. Le 24 novembre 2021, au moins 27 personnes avaient perdu la vie à quelques kilomètres des côtes britanniques et les secours avaient été alertés. Parmi les personnes auditionnées, l'un des deux seuls rescapés du naufrage, mais aussi les gardes-côtes anglais ou encore les familles de celles et ceux qui ont disparu. Amélie Beaucourt, après un mois d'audience, deux visions se sont affrontées lors de cette dernière séance, celle des victimes et celle des autorités britanniques.
C'est à l'avocate des familles des disparus de donner en premier ses conclusions après un mois d'audience.
La tragédie du 24 novembre 2021 était évitable. Elle n'aurait jamais dû avoir lieu. Alors que le nombre de traversées de la Manche augmente de façon exponentielle depuis 2018, les gardes-côtes font l'autruche. Le ministère de l'Intérieur se concentre sur la dissuasion de l'immigration. Plutôt que de mettre les moyens dans le secours, ils échouent donc à remplir leur mission principale, protéger les vies en danger.
Parmi ces griefs, des secouristes fatigués et en sous-effectif, des problèmes de communication avec les Français, l'abandon prématuré des recherches ou encore l'incapacité à utiliser WhatsApp alors que la géolocalisation du bateau y avait pourtant été envoyée. L'avocat du ministère de l'Intérieur, lui, reste sur ses positions.
Si les passagers sont décédés, c'est parce que le bateau fourni par les trafiquants ne tenait pas la route. Si la mission de secours en mer a échoué, c'est d'abord parce que la météo était mauvaise. Ensuite, parce que les Français ont tardé à nous envoyer les informations dont ils disposaient. Mais aucun de nos agents ne peut être tenu responsable de l'échec de cette mission de secours.
Ces audiences marquent la fin de 15 mois d'enquête, une commission à laquelle les autorités françaises ont refusé de participer.
La précision d'Amélie Beaucourt.
Jordan Bardella doit rentrer en France ce matin.
Après deux jours passés en Israël, le président du Rassemblement National y a été invité par l'extrême droite israélienne. Il a notamment visité le mémorial de la Shoah, mais s'est aussi rendu sur des sites de l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023. Raphaël Delvolvé, cette visite, il faut s'attendre à ce que Jordan Bardella s'en serve à l'avenir pour affirmer que les pages sombres de l'ère Jean-Marie Le Pen sont définitivement tournées.
C'est un moment historique, aime-t-on répéter dans l'entourage de Jordan Bardella, pour qui le voyage traduit l'aboutissement d'une stratégie de dédiabolisation datant de 2011 et appliquée jusqu'à très récemment. Le refus de Jordan d'intervenir à la CPAC de Washington après le salut nazi de Steve Bannon a sans doute permis cette invitation, souligne un cadre. Une invitation du gouvernement israélien, aime-t-il préciser. C'est une preuve qu'il n'y a plus aucune trace d'antisémitisme au parti, conclut-il, bouchant cependant volontairement les oreilles lorsqu'on lui rappelle les polémiques, l'annulation d'une rencontre avec le président israélien, les défections parmi les intervenants à la conférence contre l'antisémitisme ou l'instrumentalisation dénoncée par le CRIF, la principale institution juive de France. Que ça plaise ou non, les juifs de France sont de plus en plus nombreux à voter pour nous, explique l'entourage du patron du RN, prenant pour exemple la centaine de Français d'Israël venus le rencontrer ce jeudi soir à Jérusalem.
Raphaël Delvolvé du service politique de RFI.
Et puis la pièce Losing It repart en tournée en France à partir d'aujourd'hui.
Une performance dansée et sonore aussi de deux artistes palestiniennes. Pièce créée en 2021 et qui résonne évidemment très fort étant donné le contexte actuel au Proche-Orient. Cette pièce, elle vient d'être présentée au Théâtre de la Bastille à Paris. Muriel Malouf y était.
Samar Haddad King, installé derrière sa console, nous immerge dans un espace sonore où les sons urbains se mêlent aux percussions et aux bruits de la guerre. Une cacophonie où les bombes répondent aux feux d'artifice, le son des hélicos fait place aux klaxons et aux éclats de voix. Un fil traverse le plateau, un élastique vert tendu en diagonale qui coupe l'espace. Checkpoint, frontière, Sama Hawakim compose sa danse autour de ce fil. Le corps s'y heurte, s'y suspend, s'y accroche, à la recherche d'un équilibre fragile. Un travail qui prend sa source dans la guerre entre Israël et le Liban en 2006. La danseuse, alors adolescente, vivait à Beyrouth. Elle essaye ensuite de se souvenir des sons, avions, bombes, sirènes et de l'effet produit sur son corps, la peur, la panique. Et le mouvement est créé à partir de cette matière. Mais le fracas de la guerre n'est jamais seul. Il s'attaque à la vie qui jaillit ainsi entre les explosions. Une chanson fuse, une prière, celle que récite la grand-mère de Sama tous les soirs. « Avec Losing It, les deux artistes palestiniennes signent une pièce percutante sur la vie comme acte de résistance en temps de guerre.
Losing It, c'est ce soir et demain en région parisienne, au Théâtre 95, avant donc une tournée en France. 6h15 à Paris, RFI Matin. C'est parti avec vous, Julien Coquel-Rohem.
Merci Gaëtan Planet, à tout à l'heure. RFI Matin, 3 heures d'information et le bilan à la une du sommet des pays volontaires pour l'Ukraine. Hier à Paris, pas de levée des sanctions pour la Russie, une mission franco-britannique en Ukraine pour faire le point sur les besoins de l'armée ukrainienne et une force de réassurance évoquée par Emmanuel Macron. Que signifie cette annonce? Au moment où un déploiement européen ne fait pas l'unanimité parmi les 27, on en parle avec Franck Alexandre à 6 heures, temps universel. On évoquera aussi ce sujet avec notre invité, l'ancien chef d'état-major de la Marine et ancien chef d'état-major particulier de François Hollande, puis d'Emmanuel Macron. L'amiral Bernard Rogel est avec nous dans une heure. L'actualité ce matin sur RFI, c'est aussi le deuxième volet du Gaza Project, enquête collaborative de 12 médias, dont RFI sous la houlette de Forbidden Stories. On parle ce matin des journalistes qui documentent avec des drones les destructions causées par l'armée israélienne dans l'enclave palestinienne. C'est notre dossier à 7h, temps universel, avec Nicolas Falaise. Et puis au sommaire également ce matin, notre grand invité Afrique à Libreville, à 15 jours de la présidentielle au Gabon et 2 jours après notre entretien avec le président de la transition et candidat Brice Oligui Nguema, son principal adversaire, l'ancien Premier ministre Alain-Claude Bilibinzé, est au micro de Christophe Boisbouvier dans une demi-heure. Mais pour commencer ce matin, à la une en Asie nous parle aujourd'hui d'un passé qui ne passe pas en Corée du Sud, des enfants arrachés à leurs parents pour être adoptés à l'étranger. Une commission vérité et réconciliation a reconnu l'État sud-coréen coupable de fraude et d'abus avec ses adoptions forcées pratiquées pendant des décennies. Elle dénonce même une exportation de masse d'enfants coréens. Bonjour Heike Schmidt.
Bonjour Julien.
La commission a présenté au public un nouveau rapport accablant ce mercredi.
Oui, il y a cette photo prise à l'issue de la conférence de presse qui a marqué les esprits. On y voit la présidente de la commission, Park Sun-young, à genoux. Elle réconforte l'une des victimes en pleurs. La femme qui se tient devant elle s'appelle Yori Kim. Elle avait 11 ans lorsqu'une agence d'adoption l'a envoyée en France sans l'accord de ses parents. Ses papiers falsifiés faisaient croire qu'elle était une orpheline abandonnée. Aujourd'hui, Yori Kim demande une compensation financière au gouvernement sud-coréen et des tests ADN à grande échelle pour augmenter justement les chances de tous les adoptés de retrouver leurs parents biologiques.
Heike, c'est une quête longue et difficile pour ces victimes d'adoption forcée.
Absolument. Sur 15 000 adoptés qui ont demandé de l'aide à la Corée du Sud, et bien seulement une victime sur 5 a pu retrouver ses proches selon des chiffres officiels.
Et sait-on combien d'enfants et de bébés ont été victimes de ce qui ressemble à un trafic d'êtres humains?
Eh bien, le rapport parle d'au moins 170 000 enfants adoptés par des parents étrangers entre 1955 et 1999. Aucun autre pays au monde n'a permis autant d'adoptions internationales. Les rapporteurs n'hésitent d'ailleurs pas à parler, je cite, d'une industrie motivée par le profit et d'une exportation de masse d'enfants coréens.
L'enquête a duré presque 3 ans. Avec quel résultat?
La commission a reçu 367 plaintes de Coréennes et Coréens adoptés en Europe, aux États-Unis ou encore en Australie. Elle a ainsi pu retracer pléthore d'enregistrements frauduleux, d'orphelins, des falsifications d'identité et aussi un contrôle totalement inadapté des parents adoptifs. Les enquêteurs suggèrent donc au gouvernement sud-coréen de présenter ses excuses officielles. La présidente de la commission, Park Sun-young, estime d'ailleurs que ces violations n'auraient jamais dû se produire et qu'il s'agit là d'une partie honteuse, dit-elle, de l'histoire sud-coréenne.
Et tout cela a commencé à la fin de la guerre en Corée de 1953. Quel était l'objectif, Heike?
À l'époque, la Corée était extrêmement pauvre. Les bébés nés de relations entre des soldats américains et des sud-coréennes étaient très mal vus, aussi parce que l'État ne jurait que par l'homogénéité ethnique. Ensuite, il y a eu un véritable boom dans les années 1970 avec des agences privées qui se faisaient énormément d'argent avec ces adoptions à l'étranger.
Et la dictature militaire de l'époque l'époque à laisser faire.
Tout à fait, au prétexte de vouloir éradiquer la pauvreté. Une pratique effectivement moins chère que de construire un système social qui aurait pourtant pu aider des enfants et des parents en difficulté, à juger la commission d'enquête. Elle doit rendre ses conclusions définitives en mai prochain.
Et on en reparlera. Heike Schmidt à la Une en Asie. Merci beaucoup. Et que disent les journaux français ce matin? Un œil sur les quotidiens qui reviennent pour beaucoup aujourd'hui sur les droits de douane de 25% sur les voitures étrangères annoncés par Donald Trump aux États-Unis. Libération dépeint le président américain dans une voiture miniature immatriculée Trumpomobile, l'auto-tamponneur, titre le journal qui donne la parole à Pascal Lamy, l'ancien patron de l'Organisation mondiale du commerce, qui décrit Trump comme un docteur Raoult. Comme lui, il se trompe sur le diagnostic et pense qu'un remède miracle va faire l'affaire. On peut aussi s'interroger sur l'existence d'un plan derrière ces remèdes bidons, dit-il. Il faut se demander si Trump n'a pas un agenda de suprématie prédatrice. Même constat du côté du journal Le Monde. Cette posture n'est pas opportuniste ni économique, mais idéologique, écrit le quotidien, qui décrit le président américain comme un apprenti sorcier. Elle se traduira, poursuit Le Monde, par une perte de pouvoir d'achat, des désordres sociaux, politiques et géopolitiques massifs, et au moins, à court terme, par une récession économique qui ne plaira pas aux consommateurs américains. L'apprenti sorcier pourrait alors perdre le contrôle de son sortilège. Et puis, comment répondre à ces droits de douane? Trump met l'Europe dos au mur, titre l'Opinion, qui cite le socialiste allemand Bernd Lange, président de la Commission du commerce international au Parlement européen. Nos contre-mesures sur l'acier et l'aluminium ne suffiront pas, dit-il. L'UE devrait taxer les services numériques où les Américains ont un énorme excédent. Il est 6h21 à Paris. Et c'est une enseigne dont le nom a fait le tour du monde et forgé le son de légendes du jazz, comme John Coltrane ou Charlie Parker. En France, le leader mondial du saxophone, la maison Henri Selmer, fête ses 140 ans et c'est l'occasion pour nous de revenir sur le marché des instruments dans l'Hexagone. 1 million d'instruments neufs vendus chaque année, avec un regain depuis le confinement en 2020. Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour les fabricants français, puisqu'ils ne comptent que pour une infime partie de ces ventes. 98% des instruments vendus viennent d'Asie. Alors pour survivre, les marques françaises misent sur le haut de gamme. Reportage Pénélope Lemoguen.
Oh, je vois que celui-ci par exemple il marche bien, mais en tant qu'il y a des petits bruits parasites qui me gênent.
Vous ne ferez peut-être pas la différence, mais pour ce musicien professionnel, tous les instruments ne se valent pas. Nous sommes à Mantes-la-Ville, à l'ouest de Paris, dans les ateliers Henri Selmer, fabricant emblématique d'instruments à vent.
La richesse du son, c'est cette résonance qu'on sent, cette chaleur qu'on sent, ce côté même presque boisé qu'on a à l'intérieur du son de la clarinette.
Adrien Bess, responsable de marché chez Henri Selmer. Selon lui, les instruments importés sont très souvent d'une qualité acoustique bien inférieure.
La différence, elle s'entend à l'oreille. On peut vraiment, même en étant complètement novice, écouter deux instruments et sentir cette différence de richesse de son dès la première note. Généralement, un instrument de mauvaise facture, il va avoir un spectre sonore extrêmement pauvre.
Qualité médiocre, mais prix agressif. Les instruments asiatiques ciblent particulièrement les débutants. Thierry Oriez, le président de l'entreprise.
Dans les 20-30 dernières années, vous avez eu la concurrence chinoise qui s'est positionnée sur des instruments très très accessibles. La majeure partie de la concurrence asiatique se situe plutôt sur les instruments intermédiaires, les instruments d'études, où là elle est effectivement très âpre. Sur les instruments d'études, j'aurais tendance à dire que tous les instruments sont des instruments d'importation entièrement réalisés en Asie.
Cette situation a conduit à un effondrement du nombre de fabricants en France. Ils ne sont plus qu'une vingtaine aujourd'hui, contre 150 en 1960. Ceux qui restent tablent sur le haut de gamme. Stéphane Gentil, chef de produit clarinette.
Le savoir-faire de la fabrication, ça c'est quelque chose qui reste vraiment spécifique. Donc on a des savoir-faire d'acousticiens, de techniciens qui rentrent dans la conception et ensuite la fabrication.
Une réputation d'excellence qui leur permet d'exporter partout dans le monde. Mais le contexte géopolitique depuis le retour de Donald Trump n'est pas pour les rassurer.
On est quand même sur une période un peu surprenante, avec des incertitudes sur les droits de douane, des incertitudes sur l'activité économique en règle générale. Et tout ça n'est pas forcément favorable à l'activité quelle qu'elle soit, et en particulier à l'activité culturelle.
solution défendue par les professionnels du secteur, que les pouvoirs publics incitent les écoles et conservatoires à acheter des instruments fabriqués en France.
À Pénélope Lemoguen pour notre reportage France. Et un œil sur votre programme. À l'écoute de RFI, chaque vendredi, la Radio du Monde répond à vos questions sur son travail et les mots qu'elle choisit d'employer. Bonjour Juliette Rangeval.
Bonjour Julien.
Cisjordanie occupée, Palestine, que recouvrent ces dénominations? C'est le sujet à la une de Pourquoi RFI dit ça cette semaine.
Le Moyen-Orient occupe régulièrement la une de l'actualité internationale, mais il est parfois difficile de s'y retrouver dans cette géographie qui est marquée par la politique, le droit, l'histoire. Jérusalem-Est, la Cisjordanie et la bande de Gaza sont des territoires occupés, nous explique Nicolas Falaise.
Des situations très différentes avec un rapport différent entre les populations palestiniennes occupées et l'occupant israélien dans ces trois zones, mais encore une fois, qui ont en commun d'être des situations que ne reconnaît pas le droit international.
Et nous reviendrons avec Nicolas sur toutes ces différences plus dans le détail dans l'émission. C'est à 11h10 temps universel.
Cette semaine, vous répondez également aux auditeurs qui veulent savoir quelle valeur accorder aux enquêtes, aux sondages, aux classements qui sont parfois le point de départ de nos reportages.
La question a été posée après la diffusion d'un reportage de Benoît Almeras sur la Côte d'Ivoire, pays le plus heureux d'Afrique de l'Ouest, d'après un classement de l'université d'Oxford au Royaume-Uni. D'abord, notre correspondant à Abidjan vient nuancer les résultats de ce classement.
Je pense qu'il faut relativiser. La Côte d'Ivoire est dans le ventre mou, 98e sur 147 pays dans ce classement du World Happiness Report de l'université britannique d'Oxford. 98e, c'est loin derrière la Finlande, qui est numéro 1 depuis 2017, et l'île Maurice, qui est le premier membre de l'Union africaine à la 78e place.
Au-delà des chiffres, il revient sur le travail des sociologues et sur le travail des journalistes pour raconter l'évolution des sociétés.
Juliette Rangeval, merci beaucoup. Pourquoi RFI dit ça avec vous? C'est à 11h10 et 19h40, temps universel. Et une adresse pour vous écrire, pour tous ceux qui se posent des questions.
Pourquoi@rfi.fr.
Et bientôt 5h30, en temps universel sur la Radio du Monde avant le journal. Un peu de musique et le français Ben l'Oncle Soul. Il revient avec un nouvel album et le single I Got Home est dans notre sélection du mois.
I got everything I need, you know I got home. I got everything I want, you know I got home. I got home. Baby, babe, I got home. Put your hands together, please. You know I got home. Move your head and tap your feet. You know what I want. I got home. Baby, babe, I got home. I got home. And everything feels alright. Up to you just for being a crowd. I can be myself again in the merry-go-round. When all you gotta do is to be in the now. You got soul, babe, real soul, babe. Gazing at your smile as you sing along and calling out the name of your favorite song. I'll keep you satisfied, but it won't be for long. I'm excited. Sound and all you wanna do, there's a spinning around. I got home, yes I got. When you get through the door and all the people shine when they dance on the floor. I got home, yes I got.
Ben l'Oncle Soul et son titre I Got Home dans la sélection du mois d'RFI. Vous la retrouvez à tout moment sur musique.rfi.fr. Et le journal dans une minute.
Santé.
Laurence Garcia vous invite à poser vos questions sur le thème d'aujourd'hui.
Dans Questions de femmes, on attend vos témoignages sur l'endométriose. Quand faut-il consulter? Quels sont les traitements possibles? On vous répond sans tabou.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 71 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité Santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Témoin d'actu. Le podcast d'info de RFI. Alexandra Cagnard.
Depuis plus de 40 ans, le prix RFI Découverte aide les talents africains à franchir les frontières. Mais aujourd'hui, les musiques d'Afrique ont-elles encore besoin du marché occidental pour prospérer? Nous en parlons dans un nouvel épisode de Témoin d'actu avec Vladimir Cagnolari.
Témoin d'actu avec Alexandra Cagnard, tous les samedis à 19h40 TU sur RFI et en podcast sur RFI.fr.